à voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, nous réécoutons la rencontre en 2014 entre Sébastien Le Foll et Jean d'Ormesson qui vient de nous quitter. En partenariat avec Le Point. Ce soir, la gloire des lettres.
On le présente comme l'écrivain du bonheur, mais c'est oublier que pour lui aussi, il y a eu des fêtes en larmes. Comme en témoigne son dernier livre, « Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit », chez Robert Laffont. Un de ses livres dont il a le secret entre traité de vie et contes facétieux. Jean d'Ormesson, bonjour.
Bonjour.
En 1956, à l'âge de 31 ans, vous publiez enfin votre premier roman, « L'amour est un plaisir ». 2 ans après le Bonjour Tristesse de Sagan, qui elle était encore âgée de 19 ans, est-ce qu'on peut vous considérer comme un écrivain tardif, comme il y a des vendanges tardives ?
Comment ? Bien sûr. J'écris mon premier livre à 30 et quelques années, et auparavant, rien, absolument rien. 17 ans, rien, 18 ans, rien. Quand je suis normal, je crois que j'avais tellement travaillé en hypocagne et en cagne, j'ai essayé de faire croire que je ne travaillais pas. En réalité, j'ai travaillé énormément. Je suis arrivé épuisé à l'école normale et je crois que j'ai passé ces 3 ans de l'école normale, c'était en 45. C'était l'époque où arrivaient notamment les films américains. Les gens que j'ai tellement aimés, les Lubitsch, les Capra, les Bogart, Lorin Bacall, j'allais au cinéma. Je crois que pendant 2 ans, j'ai été 2 fois par jour ou 3 fois par jour au cinéma. Et l'idée d'écrire un livre ne me passait pas par la tête jusqu'au moment où... Pourquoi est-ce que j'ai écrit mon premier livre ? Je vais vous le dire, pour plaire à une fille. Et malheureusement, je crois qu'elle préférait les joueurs de tennis et les coureurs automobiles. Ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Et ce premier livre s'appelait « L'amour est un plaisir ». C'était un peu un oxymore. C'est-à-dire une contradiction. L'amour est un plaisir, l'honneur est un devoir. Et derrière cette gaieté, il y avait déjà cette espèce d'inquiétude. Enfin, j'avais ce manuscrit, et qu'est-ce que j'ai fait ? Et ça, c'est quand même une leçon. Je reçois maintenant beaucoup de lettres de jeunes gens qui disent « Est-ce que vous pouvez m'appuyer pour mon manuscrit ?» La littérature, c'est pas le monde politique, il faut pas de recommandations. Les recommandations, on a beau le dire aux débutants, les recommandations ne comptent pas. Elles sont jetées à la corbeille. Et mon premier manuscrit, je ne l'ai pas envoyé par la poste parce que j'habitais rue du Bac, et je l'ai été déposé à la demoiselle du téléphone, chez Gallimard. Et évidemment, j'étais un peu suffisant quand même. J'ai attendu 15 jours ou 3 semaines et j'étais étonné de ne pas avoir de réponse de Gallimard. Et après, des années après, j'étais au comité de lecture de Gallimard. Je sais qu'il faut attendre 2 mois, 3 mois. Moi, au bout de 3 semaines, j'ai pris le double du manuscrit et je travaillais donc à l'UNESCO. On travaillait le samedi à cette époque-là. Le samedi soir, j'ai déposé le double de mon manuscrit 34 rue de l'Université, en face de Gallimard, chez Julliard. Il était 7h30 du soir. Je l'ai laissé chez la dame du téléphone. Le lendemain matin, dimanche, le téléphone sonne à 7h moins le quart, chez mes parents. J'étais pas tellement content que le téléphone sonne à 7h moins le quart. René Julliard me téléphone. Ça a été un cours qu'il me dit « Vous avez écrit un chef-d'œuvre ». Je crois me rappeler qu'il m'a dit « C'est mieux que Sagan. C'est mieux que Sagan. Venez signer le contrat. » Normalement, je me suis précipité, j'ai signé le contrat. Et ce chef-d'œuvre, il m'a dit « Ça va être formidable, ça va être un triomphe. » Ça n'a pas été un triomphe. Ça a été un semi-succès, un semi-échec. Et ce qui étonnait, pour aller vite, ce qui étonnait le plus Julliard, il m'a dit, écoutez, il y a quelque chose d'embêtant, c'est qu'on comptait beaucoup sur le Figaro. J'avais un oncle qui s'appelait Vladimir, qui écrivait régulièrement au Figaro. Oui. Et Le Figaro ne parle pas de votre livre. J'ai dit, non, le Figaro ne parle pas de mon livre. Je suis sur la liste noire du Figaro, on ne parle pas de mon livre dans le Figaro. Ça n'a pas fait de bien au livre. Et puis, le livre était probablement moins bien que Sagan. Ça a marché, mais pas tellement bien, pas tellement bien. J'en ai écrit un second qui s'appelait Un amour pour rien. J'en ai écrit un troisième qui s'appelait Encouragé par quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Christian Bourgois, qui avait trouvé le titre qui s'appelait Du côté de chez Jean. Et j'en ai écrit un quatrième. J'en ai écrit un qui était un tout petit peu pornographique, comme ça, qui s'appelait Les Illusions de la mer, qui a beaucoup choqué Paul Morand. Et j'en ai écrit un cinquième qui était bien meilleur, qui s'appelait Au revoir et merci. Et Au revoir et merci, qui est un assez joli livre, si j'ose dire, et qui n'a pas eu beaucoup de succès, et qui était, franchement, c'est vrai, un adieu à la littérature. Je renonçais à la littérature qui ne m'avait pas donné ce que j'en espérais.
Le succès ?
J'avais connu quoi, des demi-succès. Qu'est-ce que c'est ?
Mais des filles, quand même.
Oh, très peu.
C'est vrai ?
Oh, très peu. Comme je vous dis, celle auquel je m'intéressais préférait les coureurs automobiles, elle avait raison. C'était pas des échecs terribles, je pense qu'il dirait à 10 000 ou 12 000, quelque chose comme ça, ce qui aujourd'hui serait déjà pas mal. Et donc je rentre à l'UNESCO et j'étais assez heureux à l'UNESCO, j'ai rencontré des gens merveilleux, j'étais lié avec Cortazar, j'étais lié avec Cheikhanta Diop, j'étais lié avec beaucoup d'Africains. C'était un travail d'attaché culturel international. Et on aidait. J'avais un budget $1 million qui dépend pratiquement de moi. Et un jour, on m'a proposé un projet d'atlas linguistique de la Chine qui était fait par des Chinois. Et naturellement, bon, je n'avais aucune compétence, mais je m'adressais aux gens compétents. Il y a des sinologues en France qui m'ont dit c'est un projet très intéressant. Et je leur ai accordé $10 000 ou $15 000 sur mon $1 million. Et j'ai été appelé par le directeur général qui m'a dit « Dites donc, Dormesson, vous vous prenez pour qui ? La Chine n'est pas dans les Nations Unies. La Chine n'est pas dans les Nations Unies et vous donnez à la Chine communiste de l'argent des Nations Unies. Je devrais vous saquer. » Et c'est intéressant parce que 2 ans après, la Chine est entrée à l'UNESCO. Et les Chinois arrivant à l'UNESCO ont dit au directeur général, il y a quelqu'un qu'on aimerait bien voir, c'est M. Dormesson qui nous a aidés. Alors le directeur général, il était étonné. Voilà mes aventures. Et je me suis dit, ces gens, ces savants, ce monde de la culture, ça ferait un roman extraordinaire. Ça ferait un roman des sciences humaines. Et j'ai écrit le roman des sciences humaines. J'ai écrit un livre que j'ai appelé La gloire de l'Empire, qui avait 800 pages, qui était une espèce de canular, qui racontait un empire.
Votre premier grand succès.
Je m'endormais en le lisant, tellement je m'ennuyais quelquefois. Et à ce moment-là, j'étais lié avec Caillois. J'étais l'adjoint de Caillois à la revue Diogène. Et Caillois était influent chez Gallimard. Et il m'a dit, donnez-moi le manuscrit, je vais le soumettre au comité de lecture. Et au comité de lecture, il y avait quelqu'un que j'ignorais complètement, qui s'appelait Michel Mort, qui a lu le livre, qui a fait un rapport très favorable. Le livre a été publié. Et je crois me rappeler qu'il a fait 300 000 exemplaires. Il y a eu un article de quelqu'un que j'ai admiré à la folie, qui s'appelait Jacques Le Goff, qui a écrit un article dans le Nouvel Observateur, et je me rappelle que l'article s'appelait « Un livre pionnier ». J'avais inventé quelque chose qui s'appelait « L'histoire-fiction ». Et il courait le bruit que la femme d'un ministre avait dit « Ah, c'est bien intéressant cette histoire. Est-ce qu'il y a d'autres livres sur cette époque ?» Et tout était entièrement inventé. Enfin, c'était entièrement inventé avec des canulars comme ça. Il y avait par exemple, à la page 480, je dis « Le plus grand historien de l'Empire dit quelque part en note la loi de l'Empire, page 480, la note renvoyée à elle-même. Bon, c'était des canulars comme ça, avec quelques erreurs. J'ai eu des coups de téléphone de professeur au Collège de France. Je racontais que l'armée romaine, les généraux mangeaient, ce qui est exact, des vulves de cochon et des crêtes de coq, et que les soldats mangeaient de la bouillie de maïs. Malheureusement, le maïs n'arrive en Europe qu'avec Christophe Colomb, c'est-à-dire 1500 ans plus tard. Alors c'était un peu ridicule. Enfin, ça a été un grand succès. Et à partir de ce moment-là, tous mes livres ont à peu près marché, plus ou moins bien, mais...
Ça vous a surpris, ce succès ?
Ah oui, ça m'a énormément.
Nous sommes alors en 1971.
C'est en quelle année ?
En 1971.
En 1971, c'est ça. Vous voyez, le temps avait passé déjà, puisque mes premiers livres sont de 54. 20 ans avaient passé. Et il a fallu 20 ans pour atteindre à ce livre. Et alors, après, j'ai écrit un autre livre qui est l'histoire de ma famille, mais une histoire romancée de ma famille qui s'appelle « Au plaisir de Dieu ». Et je me suis inspiré de ma famille. Mais enfin, dans mon livre, il y a quand même énormément de fous, de gens bizarres, d'acteurs, d'aventuriers, d'homosexuels, peut-être d'assassins. Tout ça est un peu inventé.
Mais alors, néanmoins, dès vos premiers livres, vous avez abattu votre jeu, le décor est campé. Ça va se passer quand même chez les heureux du monde. Hein. Il n'y a pas de smicard dans vos romans,
oui,
quasiment.
C'est vrai que ça se passe évidemment dans une vieille famille. Je crois que la première phrase était « J'ai vécu dans un monde qui regardait en arrière. » J'avais les cartes toutes. Et alors, c'est amusant parce que je signe un jour, je me rappelle, j'étais au salon du livre, et il y a une dame qui arrive et qui dit « Ah, oh, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai été un peu surpris parce que vous parlez toute votre famille, mais j'ai connu votre famille, vous avez un oncle qui s'appelait Vladimir, et je ne l'ai pas retrouvé dans votre livre. » Et je lui ai dit « Écoutez, madame, je vais vous dire la vérité, ce livre est plein de souvenirs, mais c'est un roman. » Beaucoup de choses sont inventées. Et la dame m'a répondu, inventées ? Moi qui croyais que vous aviez tant de talent. L'idée que si on invente, c'est moins bien que... Il y a la fameuse phrase de Proust, l'état d'esprit où on l'observe est tellement inférieur à l'état d'esprit où on invente.
Et alors je vais vous faire une autre citation, Jean d'Ormesson. Elle est de Byron. Toute invention... est un talent de menteur.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce que vous croyez à ça ? Vous êtes d'accord avec lui ?
Bien sûr. Vous savez, j'ai énormément brouillé les cartes. C'est une formule encore d'Aragon, mais j'ai brouillé les cartes. Je finis par ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et même en ce moment où je vous raconte ma vie, je me dis, ce sont des souvenirs. Est-ce que je ne réinvente pas un peu ces souvenirs ? Quand je vous parle de la Cagne, quand je vous parle de mon enfance en Allemagne, est-ce que ce sont vraiment des souvenirs ou est-ce que je réinvente un peu tout ça ?
Mais est-ce que cette manière aussi de parler, cette parole chez vous,
oui,
généreuse, n'est pas une manière de vous protéger et de ne rien dire de vous ?
Alors, j'ai toujours dit, par exemple, sur ma vie sentimentale, il y a deux façons de ne pas en parler. La première, c'est de se taire. La deuxième, et c'est celle que j'ai adoptée, c'est d'en parler tout le temps, mais de ne pas en dire grand-chose. Et en effet, mes autofictions, l'invention est tellement mêlée à la réalité que je ne sais plus très bien ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Il paraît qu'un des grands bonheurs dans votre vie, c'est de vous promener tout nu au bord de la mer, de la Méditerranée.
Écoutez,
de nager,
c'est vrai,
de prendre le soleil.
C'est vrai, j'ai la chance d'avoir une maison à Saint-Florent. Et la Corse est évidemment la plus belle île de la Méditerranée. J'ai adoré la Méditerranée, j'ai aimé toute la Méditerranée, j'ai aimé l'Italie à la folie. J'ai aimé la Grèce beaucoup, j'ai aimé l'Égypte, j'ai aimé la Syrie, je dois vous dire, beaucoup aussi. Et maintenant, la Corse est d'une telle beauté que... Et souvent, J'écrivais sur la terrasse de cette maison, au bord de la mer, en maillot de bain. Puis je me baignais et quelquefois je traversais un bout de mer et j'arrivais de l'autre côté à terre. Mais je me baigne souvent tout nu et pour revenir à la maison à pied, je revenais à travers le maquis, en effet, je crois tout nu. Et de temps en temps, je rencontrais des gens et je ne suis pas exhibitionniste. Alors je me cachais, je me faisais mal dans le maquis parce que ça pique. Mais c'est vrai que je me promenais quelquefois tout nu. Maintenant, j'ai renoncé, à mon âge, j'ai renoncé. Je mets des maillots de bain.
Cette manière de célébrer le soleil, l'amour, les femmes, est-ce que ce n'était pas le comble de la provocation quand vous avez fait vos débuts en littérature? Où, à l'époque où régnait Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, l'obligation de l'engagement, alors que vous, vous êtes le plus désengagé des...
C'est intéressant, parce
des écrivains.
Que je suis passé entre les gouttes de l'existentialisme. J'aurais pu rencontrer Sartre. J'étais très très lié avec Lefort, qui était très lié avec Sartre. Maintenant, j'ai un ami que j'aime tendrement, qui est Claude Lanzmann. Je suis très très lié à Claude Lanzmann, qui a écrit un chef-d'œuvre, Le lièvre de Patagonie. C'est magnifique, c'est magnifique. Il a aussi écrit La Shoah, c'est quelque chose. Et donc j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration pour Claude Lanzmann. Mais à l'époque, Claude Lanzmann était, que je ne le connaissais pas, il était intime de Sartre, je n'ai jamais rencontré Sartre. Je crois que Simone de Beauvoir dit quelque part qu'elle a pris un café avec moi. J'en ai aucun souvenir. En tout cas, le nouveau roman, le roman existentialiste, le surréalisme que j'ai beaucoup admiré, tout ça, je n'ai connu personne. De temps en temps, je me dis, je n'ai connu personne. Je n'ai pas connu Gide, je n'ai pas connu Sartre, je n'ai pas connu Camus, j'aurais pu connaître. Et puis je me dis, mais j'ai connu assez bien ou très bien Paul Valéry, Paul Morand, Aragon, j'en ai connu pas mal, Queneau, que j'ai adoré Queneau. Et on était tous les deux au comité de lecture de Gallimard et il habitait Neuilly. Donc tous les mardis, je le ramenais à Neuilly et je me suis beaucoup lié avec Queneau, qui était un homme merveilleux.
Vous parliez de Morand, c'était un de vos parrains en littérature?
J'ai beaucoup aimé Morand. C'est très intéressant parce que là où vous êtes assis en ce moment, il est venu 20 fois ici, là. Et j'étais très lié avec lui et souvent il venait dîner ici. Je me rappelle un soir, il venait dîner ici. Il était vieux déjà, il avait mon âge maintenant. Et il sautait dans sa voiture et il partait pour Trieste sur la tombe de sa femme dans la nuit.
Vous sentiez proche des Hussards, les Nimiers, Blondin?
Non. Non, pas très.
Parce que vous aviez fait signer Blondin dans le Figaro, je crois.
Oui, je les aimais beaucoup. Je trouvais ça très bien. J'ai adoré Blondin. Je le connaissais assez peu. Il est venu ici plusieurs fois. Et les histoires de Blondin, j'en suis fou. Vous connaissez l'histoire du dîner? Il faut que je le raconte. Françoise.
Sa femme.
Sa femme fait un dîner et Blondin n'est pas là à 7h30, 8h, il n'est pas là. À 8h30, les invités arrivent, il n'est pas là. On attend jusqu'à 9h30, on se met à table, il n'est pas là. Les invités partent à 11h, il n'est pas là. Et il rentre à 3h du matin. Et François, sa femme, lui dit: Antoine, c'est moche de ta part que tu ne sois pas venu. Bon, je sais comment tu es. Tu aurais pu donner un coup de téléphone. Et Blondin, ivre mort, lui répond: j'ai essayé de t'appeler, mais j'ai pas pu. J'ai pas trouvé un seul bistrot fermé. C'est pas formidable. J'ai pas trouvé un seul bistrot fermé.
Alors, il y a une autre date importante pour vous après 1971, hein, le succès de La Gloire de l'Empire, octobre 73, votre élection à l'Académie française. C'était pour faire plaisir à vos parents que vous êtes porté candidat. C'était une école, une grande école, un concours qu'il fallait réussir.
C'est la formule que j'ai employée. J'ai dit, je me suis présenté pour faire plaisir à ma mère. C'est un peu vrai. Écoutez, personne ne m'a obligé d'aller à l'académie. On m'a pas noté pour aller à l'académie. J'ai été à l'académie parce que j'étais content d'y aller et je suis très content et très fier d'être à l'académie où j'ai des amis que j'admire, que j'aime beaucoup, très nombreux. Je ne vais pas vous donner des noms, enfin je peux en donner quelques-uns. Je suis très lié avec Déon, je suis très lié avec Orsena, je suis très lié avec Pierre Laurent, je suis intime avec Fumaroli, que j'admire beaucoup. Beaucoup, tous sont des amis. Hélène Cardenco, c'est une amie merveilleuse que j'aime profondément. Et l'Académie, c'est une société d'amis, c'est presque une famille. Et quand j'ai été malade, vous savez, j'étais touché de l'amitié. Il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas connu du grand public, mais qui est un homme merveilleux, qui est François Cheng, qui est chinois à l'origine, comme vous savez, qui est un grand poète. Et quand je vais à l'Académie, j'étais assis entre, à ma droite, à droite, là, j'avais Jacqueline de Romilly, à gauche, j'avais Claude Lévi-Strauss. Enfin, quand même, c'était des gens pour qui j'ai une affection et une admiration sans borne. Maintenant, il y a 73, il y a 40 ans que je suis à l'Académie. 40 ans. Je me rappelle que je me moquais un peu de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui était Jacques de Lacretelle, qui disait qu'il avait passé plus de temps à l'Académie que hors de l'Académie. C'est ce qui me guette. J'aurais passé plus de temps à l'Académie qu'hors de l'Académie. Alors, vous savez...
Je vais vous lire, Jean d'Ormesson, la description que Mathieu Gallet, dans son journal, a faite de la réception que vous avez donnée au château d'Ormesson pour la remise de votre prix. Elle est terrible.
Oh, mon Dieu.
La fête était somptueusement anachronique. Des foules de jeunes gens à costumes rayés, toute l'académie, des Rolls en pagaille, des chauffeurs, un balai de carrosses comme au bon vieux temps. Au lendemain de la victoire giscardienne, c'était la première sortie des nantis après l'angoisse. Vous vous retrouvez dans cette description ?
Oui, c'est vrai.
nous parlions des riches dans vos romans, autour de vous. Est-ce que les riches sont si différents ? Est-ce que ce sont vraiment des gens à part ?
J'ai écrit un livre qui s'appelait « Du côté de chez Jean », où je parle de l'argent. Je ne renie rien de ce que j'ai écrit, mais quelquefois, je n'écrirai pas la même chose. Ce qu'il y avait quand je parlais de l'argent, c'est que je prétendais que c'est très bien de mépriser l'argent quand on en a. Mais quand on n'en a pas, on ne méprise pas l'argent. Et ma formule était, l'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. Et ce qu'on m'a, accusé de cynisme à l'égard de l'argent, je prétendais que c'est une fausse élégance de dire je suis au-dessus de l'argent, je méprise ça. C'est très facile quand on en a de le mépriser. Mais quand on n'en a pas, on ne peut pas le mépriser. Et maintenant, j'attache vraiment... Vraiment, je n'attache pas beaucoup d'importance à l'argent. J'ai gagné de l'argent avec mes livres. Et franchement, je suis sur le point de m'en débarrasser le plus possible, de passer à mes enfants ou mes petits-enfants. Et probablement, j'ai été trop fasciné, peut-être, par l'argent. Parce que je me disais, quand on est malheureux, il vaut mieux avoir de l'argent, vous savez. Ceux qui n'ont... Quand j'ai été malade, j'ai vu des gens autour de moi qui n'avaient pas d'argent. Non seulement ils n'avaient pas d'argent, mais le monde leur échappait. Vous savez, le système hospitalier français est un système merveilleux. un système merveilleux, qui est fragile. L'école aussi était merveilleuse en France. Quand j'étais jeune, il y avait des gens qui partaient pour l'Amérique faire des études. C'était ceux qui n'étaient pas capables d'en faire en France. C'était les gens qui avaient de l'argent, qui étaient nuls et qui n'arrivaient pas à suivre le programme français. On les envoyait à l'Amérique. Et maintenant, c'est le contraire. C'est les jeunes gens brillants qui partent pour l'Amérique. Et bien, de la même façon, le système hospitalier français est un système formidable. Et on voit comme c'est dur pour des gens qui, non seulement n'ont pas d'argent, mais qui ne savent pas. Il faut remplir les papiers, il faut savoir comment faire. C'est très compliqué, tout ça. Et j'ai dit dans une interview que cette maladie que j'avais eue, je ne m'avais pas fait renier mes idées politiques, mais que j'en étais sorti socialement d'extrême gauche, en disant ce qu'il faut d'abord, c'est aider les plus pauvres, aider ceux qui n'ont pas d'argent et pour qui l'argent compte beaucoup. Et si je voudrais me battre pour quelque chose, c'est évidemment pour l'égalité des chances. L'inégalité des chances au départ, c'est quelque chose contre lequel il faut se battre. Il faut donner le plus de chances possible à tout le monde. Vous savez, la fameuse formule un peu bien pensante, c'est Mozart qu'on assassine. Je suis sûr qu'il y a des talents formidables chez des gens qui simplement ne peuvent pas, faute de moyens, les exprimer. Et ça, c'est cette idée que j'ai fondamentalement de l'égalité des gens. Il faut travailler à l'égalité des chances.
Est-ce que vous pensez que si vous étiez dans une famille d'ouvriers, vous seriez devenu écrivain ?
Mais probablement pas. Probablement pas. Et il y a deux choses qui nous ramènent à l'égalité, c'est la naissance. Mais dès la naissance, les conditions sont tellement différentes. Et puis il y a quelque chose qui nous ramène à l'égalité, c'est la mort. Naturellement, il y a des gens qui meurent dans des draps de soie, il y a des gens qui meurent dans la rue, mais enfin tout le monde finit par mourir. Et c'est cette leçon-là, nous sommes tous égaux, nous sommes égaux devant la mort, et nous devons être le plus égaux possible dans la vie.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2014 de Sébastien Le Foll avec Jean d'Ormesson qui vient de nous quitter. En partenariat avec Le Point. À voix nue, réalisation Anne de Pelchin, prise de son Benjamin Thuot, coordination Claire Poinsignon. À voix nue, s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.